voulais vous en parler. J'ai amené le livre si ça vous intéresse, qui est vraiment bien. C'est de Paul Vane. C'est quand notre monde est devenu chrétien. 312-394. Il écrit bien, c'est un grand spécialiste d'histoire, etc., que pendant longtemps, le christianisme était beaucoup une affaire d'élite, parce que c'était une religion assez philosophique. Et elle a réussi à combiner à la fois le côté élitiste et philosophique, et en même temps s'adapter à toutes les superstitions pour rester aussi une religion populaire. Mais les superstitions ont été très très longues, et l'homme continue même encore dans le christianisme, donc c'est la rencontre entre une philosophie assez complexe et subtile sur le bien, le mal, la mort, la morale, des questions morales qui n'étaient pas abordées dans les autres religions. Ah oui, c'est Paul Vane, V-Y-N-E. N-E. En livre de poche, c'est un petit livre, hein, c'est très bien. Le monde, quand notre monde est devenu chrétien. Et on comprend assez bien que, justement, dans l'Empire, on a vu que parfois ça peut être à la fois une religion impériale, une religion aussi qui concernait les élites, et en même temps, ça pourrait être aussi une religion populaire vécue de manière complexe. Parce que la figure même de Jésus dans le christianisme, elle est complexe. Puisqu'il peut être aussi des pauvres, il est pote avec des charpentiers, il est pote avec des pêcheurs, des gens simples, etc. Donc vous avez à la fois une dimension philosophique et à la fois une dimension populaire. Et parfois une question de bascule, parfois le peuple, par exemple en Irlande, où une fois que l'Empire romain commence à être un peu détruit, le peuple revient à des vieilles traditions animistes, superstitieuses, etc. Les seuls qui conservent la tradition chrétienne, ça va être plutôt les intellectuels, les moines, autour du texte, de l'écriture, etc. Donc ils préservent ce qu'ils peuvent dans quelques petits monastères, et ça va être densifié autour du texte, mais aussi aux côtés de la dimension merveilleuse. Et là, on voit les influences locales, c'est-à-dire les influences nordiques, dans des domaines, ça je vous en ai parlé, des régions où justement on est beaucoup moins dans l'architecture, la cité, la ville, l'extension, on est beaucoup plus dans bijoux, tissus, petites choses denses, comme effectivement, et dans le style, par exemple, de livre de Durop, je vous en prie, vous avez effectivement des choses qui évoquent ce qu'on appelle les entrelacs, qui évoquent aussi bien le tissu que les bijoux et ce qu'on appelle l'art du cloisonné, l'orfèvrerie. Au niveau du tissu, d'ailleurs, un des principes même du tissu s'appelle la broderie, mais aussi la trame, c'est-à-dire les fils qui se croisent, les nœuds, que l'on va retrouver ici comme étant un modèle et un motif de richesse, de densité. Et en fait, c'est leur culture, elle est essentiellement véhiculée par ce côté graphique linéaire. Alors, le livre de Duro, que l'on voit ici, c'est aussi ici. On a des pleines pages. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que certaines pages sont des pages uniquement décoratives, il n'y a pas de texte. Alors, pourquoi? Et en plus, elles sont non figuratives, si ce n'est qu'une figure de croix ici. Cette idée de relier, je vous ai dit, un monde fini, mais dans lequel vous avez une sorte d'infinité de combinaisons, des circulations et des nœuds, on verra plus tard le modèle du labyrinthe. Quelque chose aussi qui évoque le tapis, d'ailleurs on parle de page tapis, de ce point de vue-là on se rapproche de l'art oriental d'ailleurs, vous aurez l'art du tapis, de la calligraphie, de la densité aussi, de l'iconoclasme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'image, il y a quand même une beauté dans le graphisme. Alors ça c'est le livre de Duro, que l'on voit encore ici. Alors parfois, dans les matériaux, vous avez aussi une dimension riche, c'est de l'utilisation, quand on peut, de l'or, de la feuille d'or. On trouve aussi le triskel, qui est purement celtique, qui est de tradition celtique. Alors ça, c'est trois volutes
dans un cercle
qui sont reliées entre elles, et on les voit ici. Alors, ici, vous avez deux spirales qui s'en mêlent et qui en forment une trois, donc trois skel, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et donc c'est le symbole de tout ce qui est celte, c'est devenu une sorte de logo qui évoque tout ce qui est breton, asturien, irlandais, etc. Ça s'appelle le triskel, mais que l'on voit ici. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est du côté des mathématiques, le 1, le 2, le 3, etc., le 4, toute une numération, les 5, donc on est dans des abstractions. Et ça, c'est assez clair aussi dans cette tradition nordique. Alors là aussi, alors ce qui est assez drôle, hein, vous avez donc des formes parfois circulaires, parfois priorité à la géométrie orthogonale, comme par exemple ici. Donc vous avez une sorte d'exploration jusqu'à l'infini, hein, dans le détail, de toutes ces possibilités de nombres, de nœuds, de chiffres, d'entrelacs, etc. Donc ça c'est le livre de Durow. Alors là, je vous zoome un petit peu parce que j'ai réussi à trouver des documents à peu près de bonne qualité. Hein, et vous voyez cette idée du fil qui se noue, qui se tisse, etc.
C'est détérioré.
Oui, parce que c'est... Alors, une chose quand même aussi, c'est que les manuscrits, puis les pays comme les pays du Nord, enfin l'Europe du Nord, Irlande, Bretagne, etc., sont assez humides. Donc, la conservation, y compris des objets, des matériaux, est quand même beaucoup plus difficile que dans tout Proche-Orient, Orient, etc., Égypte, etc. Alors, vous avez quand même, dans le livre de Durow, rappelez-vous, on est au 8e siècle à peu près, un élément de figuration, mais qui devient cette fois-ci purement symbolique. On s'écarte totalement du naturalisme, si vous voulez. Vraiment là, les animaux sont représentés comme des symboles, plus du tout comme la beauté animale, comme des naturels. Hein. On est ici dans les symboles des quatre évangélistes, donc l'aigle de Saint Jean, le lion de Saint Marc, hein, l'ange, l'être humain de Saint Matthieu, et bon, le taureau de Saint Luc, etc. Donc, là encore, vous avez la constitution d'une iconographie, de symboles, d'un ordre des choses, qui est très très clair dans ce livre. Alors, ce sont des livres aussi, donc c'est pas des instruments, ce ne sont pas des outils de séduction ou qui sont appelés à voyager. C'est des choses qu'on vient consulter, que l'on vient voir, etc. Alors, vous avez quand même du texte, évidemment, puisque c'est un livre, donc toujours dans le livre de Durow. Et là, vous voyez aussi cette gradation typique qu'on avait aussi dans le Book of Kells, puisque vous avez la lettre capitale, hein, puis vous avez ces lettres, on va dire, en majuscules, puis ensuite les minuscules, etc., qu'on va rentrer dans le texte pur. Donc, une manière presque architecturée, hein, très ordonnée de rentrer dans le texte. Et juste un truc, plus tard, ça sera un peu un modèle, même pour les églises. Comme le porche, vous avez une sorte d'entrée initiatique, on va rentrer dans une église comme on rentre dans un manuscrit, avec les lettres capitales, et dans les églises, vous aurez les chapiteaux, vous aurez les tympans, c'est une manière de rentrer, de signifier que l'on rentre dans un monde bien particulier. C'est pas n'importe quel texte, c'est pas n'importe quel bâtiment, il y a quelque chose d'un peu merveilleux qui nous dépasse, et ensuite, on va rentrer dans une narration. Juste une chose au niveau de l'écriture, bon, excusez, je zoome un peu, c'est que c'est donc du latin. Alors, on va dire que ce qui reste de cet empire romain qui est en train d'être déconstruit, morcelé dans tous les coins, ben, ça va être la religion chrétienne de certaines élites intellectuelles, puis la langue, le latin, qui permet effectivement à des personnages, qu'ils soient irlandais, qu'ils soient espagnols ou ibères, ou qu'ils soient gaulois, ou qu'ils soient francs ou germains, etc., de communiquer entre eux. Et donc vous avez un des restes de l'Empire romain, parce que l'Empire romain est vraiment morcelé en tas de puissance, vous avez des Germains, des Celtes, des Saxons, des Francs, des Gaulois, des Visigoths, des Goths, des Ostrogoths, et tout ce qu'on veut, des Lombards, bon. Eh bien, c'est en ce sens-là que l'Église, finalement, catholique, bizarrement, malgré toutes ses faiblesses, sa fragilité, reste un des seuls liens homogènes de toute cette Europe morcelée. Juste une chose aussi, c'est que c'est une écriture qui est parfaitement lisible, plus lisible que le gothique qu'on verra plus tard. L'écriture gothique du XIIIe siècle est beaucoup plus difficile à déchiffrer que je ne sais pas exactement comment on appelle la Caroline, oui, alors la Caroline, parce que c'est proche, on va voir justement de l'art carolingien, hein, c'est à peu près la même époque, et je crois qu'effectivement c'est la Caroline en termes de calligraphie. Alors là, encore, ça c'est un autre livre qui est toujours dans la tradition celtique, c'est le livre de Canterbury, le Codex Aureus de Canterbury. Alors, vous avez vu, on retrouve la même lettre, hein, qui lui aussi est d'une beauté stupéfiante. Et là aussi, vous avez vu cette espèce de gradation du texte, la lettre, on va dire, capitale, puis les lettres majuscules, hein, et puis ensuite, là, une écriture différente, mais aussi remarquablement établie, régulière, etc. Alors, ce jeu avec l'écriture aussi, alors, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que l'écriture, ce sont des lignes. Donc, quelque part, vous avez une adéquation entre l'écriture les nœuds, les fils et les entrelacs, puisque cette idée aussi de quelque chose d'abstrait qui fait du sens, l'écriture, l'art de l'écriture et la calligraphie, on l'a évidemment dans la tradition musulmane plus tard, mais c'est très proche de ce point de vue-là. Alors là, les inventions, alors ce qui est extraordinaire, c'est que les inventions, ça c'est le livre de Durnan, donc toujours le motif celtique, quelques éléments figuratifs, un petit peu d'animaux que l'on voit ici, et toujours cette espèce de gradation, hein, de la capitale, la majuscule et la minuscule. Quelques éléments figuratifs, mais alors, tout ce qui est figuratif, tout ce qui est vivant, on va dire, les animaux, les humains, etc., sont encadrés. Ils sont vraiment comme s'ils étaient, ils faisaient partie d'un monde, hein, d'un monde qui est mystérieux, abstrait, dense, et qui les dépasse. C'est un peu comme un cadre. Et dans la tête, dans les textes que l'on voit de l'art pré-roman, on va dire c'est avant l'art roman, il y a effectivement cette idée que le dieu des chrétiens a conçu un monde qui est un cadre, et à l'intérieur vous avez une diversité, mais qui est ordonné par une sorte de force supérieure. Hein. Le monde est fini, il est ordonné, il est parfait, il nous dépasse, quelque part, les humains et les animaux, mais cette diversité, elle fait partie de ce monde, même si elle est, donc elle est au sens strict, elle est encadrée. L'idée de structurer quelque chose, c'est aussi un des enjeux de cette tradition des manuscrits. Bon, alors voilà quelques autres variations. Le manuscrit de Saint-Gall, avec de l'or, hein, ici. Là aussi, avec une beauté prodigieuse des facilités manuscrits de Saint-Gall. C'est toujours le 9e siècle. Ce qui est clair... Alors, vous avez l'écriture aussi qui est... Là, il y a l'établissement de codes progressifs. L'autre jour, je vous ai parlé des codes dans la tradition byzantine, au niveau de la représentation, l'iconographie, l'or, l'architecture. On peut dire que les Irlandais et les Anglo-Saxons et les Celtes, donc les catholiques du Nord de la même époque, eux établissent des codes en écriture, dans les contenus des textes. Donc vous avez l'établissement comme ça, une structuration progressive de tout le corpus qui va constituer le catholicisme. Et même de point de vue très formel, les écritures hein, sont très modernes. Et là aussi, c'est incroyable de voir que ça a plusieurs siècles et qu'on lit ça parfaitement. Et c'est très clair. Ce que l'on constate aussi, c'est que ces manuscrits différents reprennent parfois exactement les mêmes types de majuscules capitales. Donc vraisemblablement, ils ont voyagé, ils ont vu. C'est-à-dire qu'un moine est allé voir le premier, le Book of Kells, puis le truc de Durham, puis l'Innisfarn, etc. Donc il y a visiblement aussi échange et voyage entre les artistes. Alors d'ailleurs, voilà le Lindisfarne qui est peut-être le plus beau à mon avis. Lindisfarne, je crois que c'est en Écosse. Hein, et qui est alors. Lindisfarne, c'est écrit ici L-I-N-D-I-S-F-A-R-N-E. Ou là. Attendez, je vais zoomer encore. Vous avez vu, j'ai réussi à trouver des documents.
Oh là là, c'est beau!
Et c'est d'une somptuosité, c'est qu'on se perd. Et parfois, il y a de l'or, puis on se tombe dans le désordre, on trouve un fil, on retrouve des couleurs, des motifs. On retrouve toujours le triskel, l'entrelac, les nœuds, parfois des figures animales qui se mêlent ici, des becs, des oiseaux qui mordent les entrelacs. Puis ça peut être ici, vous avez des becs d'oiseaux, etc., que l'on voit partout. Et donc, quelque chose de purement merveilleux et une sorte de fantaisie, comme si c'était une sorte d'errance de la pensée. Hein, et puis, qu'un coup, progressivement, rentre dans un cadre hein, beaucoup plus structuré. Et là, y compris l'écriture, là on parle de la capitale, caput, la tête, hein, la majuscule qui est plus grande. Et ensuite, on va passer dans l'écriture progressive, avec des jeux de couleurs et de graphismes absolument somptueux. Et là, les petits textes. Alors, on imagine, hein, d'abord, rappelez-vous, il y a aussi des contraintes techniques, hein, que c'est pas du papier, c'est des parchemins, donc c'est rare, c'est cher. Je vous ai dit, je sais pas, comment pour faire un manuscrit, on avait compté combien de boutons il fallait parfois, pour faire une Bible, il fallait plusieurs boutons, donc plusieurs agneaux, parce que pour avoir la peau, ou du jeune veau, du velin, des agneaux, donc c'est. On va pas gaspiller, parce qu'on va quand même pas.
Alors, c'est après l'avoir.
Oui, on les mange quand même, évidemment. Donc, heureusement, ça sert à autre chose. Il y a la laine, il y a la viande, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux.
Alors, sauf le velin qui est fait avec la peau de la, du veau mort-né.
Ah, mort-né, voilà.
Voilà.
Là aussi.
Donc là...
Donc, alors, c'est toujours Lindisfarne, ici. Et à chaque fois, vous avez la même structure, avec une capitale. Et parfois, on a du mal à identifier. Alors, ça aussi, cette idée d'une lettre qui nous perd, parce que c'est intéressant, cette idée, c'est que tout à coup, on arrive à un signe, et on sait très bien qu'un signe seul ne veut rien dire. Les signes ne prennent du sens que dans un contexte, c'est-à-dire qu'associé à d'autres signes, ça devient un code, ça devient un langage, ça devient une écriture, etc. Mais le signe tout seul ne veut rien dire. Donc vous avez l'expansion du signe seul comme effectivement la promesse de quelque chose. Seul, on peut l'admirer, ça devient quelque chose de purement abstrait, hein, et qu'on va admirer pour une forme pure. Comment ?
C'est quoi la capitale ?
La capitale, ben, c'est cette grande lettre-là.
Mais alors, c'est quoi comme,
lettre ? Alors, si on regarde ici... peut-être un P ou un...
Non, c'est une lettrine.
C'est, alors, lettre, qu'on appelle aussi lettrine, voilà. Je dis, c'est une lettrine dans les textes de manuscrits, mais en sens plus général, effectivement, c'est cette espèce de... Je dis capote parce que c'est la lettre en tête, quoi. Alors, ce qui est... Et vous avez vu, là, et là, ils sont proches.
Là, hein. C'est P,
on dit. Et...
Ça, c'est un P.
Alors, où ça, un B? Alors, attendez, je sais. Dans l'angle Rixibi. Alors, Eratuerung. Alors, je sais pas. Mais alors, la richesse aussi des couleurs, hein, c'est somptueux, des bleus, des jaunes, jusque dans le détail. Alors, celui-ci, je ne le connaissais pas, en fait. Je connaissais que le Book of Kells. Et le Lindisfarne, c'est aussi absolument merveilleux.
On dirait pas ce qu'on regarde là. Non, mais c'est la peinture.
Ça aussi. Ça...
C'est quoi, c'est de l'encre?
Ah oui, alors, c'est des encres, alors, je ne sais pas très au niveau des matériaux, toi, tu sais peut-être plus des...
Les verres, je sais que c'est de l'oxyde, voilà, oui. C'est ça, mais c'est toxique, et ce qu'on a essayé d'en faire...
Alors, j'ai réussi à trouver des documents assez précis, mais... En effectivement, alors c'est beau parce qu'on devine bien le côté merveilleux, la densification de la chose, cette espèce d'hommage, et puis la fantaisie, c'est quelque chose qui échappe totalement et au discours et à la morale, une beauté pure. Et ça, c'est le sentiment de la beauté ou d'un don alors, religieux, mais que l'on va trouver parfois, y compris même maintenant dans les mandalas, les choses comme ça, hein, de se perdre dans un monde, un petit monde. Et ça, c'est aussi cette densité, c'est quelque chose qui est typique, c'est une petite chose peut devenir extrêmement dense. On n'est pas forcément dans l'étendue. La tradition méditerranéenne est beaucoup plus dans l'étendue, parce que c'est des sociétés beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables, qui durent sur des siècles et des milliers d'années, qui sont beaucoup plus ouvertes sur le climat extérieur, avec des cités beaucoup plus vastes. Hein, des grandes cités depuis Ur, Babylone, le Caire, enfin, Jérusalem, etc. C'est des choses beaucoup plus anciennes, toutes ces grandes cités de Méditerranée et d'Orient, alors que les traditions nordiques, il n'y a pas de grande ville, il n'y a aucune grande ville. Ça n'existe quasiment pas. Donc, si vous voulez, on est dans deux choses, deux notions complètes, et c'est un monde qui a aussi, qui réussit à voir sa réalité, hein, et qui va bien au-delà de la simple, on va dire, propagande religieuse. Ça, c'est encore toujours une des femmes. Et alors, vous voyez, c'est la même forme. Alors, juste un truc, les couleurs, j'ai trafiqué un petit peu pour qu'elles soient à peu près toutes, pour pas que vous ayez trop de mal. Quand je passais d'une page à l'autre, quand on va chercher parfois sur Internet, elles sont parfois un peu plus ternes ou plus bleues, etc. C'est le véritable couleur... Bon, en gros, c'est ces mêmes rapports, mais j'ai parfois un petit peu trafic. Enfin, j'ai pas changé les couleurs, mais j'ai joué un peu sur les luminosités, contrastes pour essayer d'avoir à peu près que d'une page à l'autre. Parce qu'on a du mal à trouver toutes les pages, par exemple, de Lindisfarne sur un même site. Donc j'ai dû aller chercher plusieurs pages du même Lindisfarne pour les mettre toutes ensemble. Parce que, et les collecter, parce que c'est assez complexe. Hein. Ça aussi, c'est nouveau, hein. Mon radotage sur les manuscrits vient du fait que c'est aussi nouveau l'accès que l'on peut avoir aux manuscrits, il est récent. Hein, parce que pour voir ce bouquin-là, il ne fallait pas y aller avec des gros doigts sales. Et ensuite, on ne peut pas les exposer à la lumière. On parlait de la conservation. Le fait qu'ils soient conservés, c'est aussi parce que c'est fermé, c'est pas montré à la lumière.
Ils sont conservés.
Alors ça, la plupart d'entre eux, il y en a, le Book of Kells, il est à Dublin. Et sinon, je crois que c'est à Londres, en Écosse, etc.
Le Book of Kells, ils ouvrent, ils mettent une page nouvelle tous les jours.
Oui, voilà. C'est ça. Et, mais je crois que c'est sous une vitre. Moi, je crois que je l'ai vu, ça fait longtemps. C'est sous vitre. Ah, oui, évidemment, on peut le comprendre que c'est fragile.
À Sainte-Geneviève, c'est pareil, même puisqu'ils sont très, très protégés.
Bah oui. Mais en même temps, quand on voit les trésors qu'il y a dedans, c'est un monde prodigieux. Alors, celui-ci, c'est toujours le Lindisfarne, qui est très... Alors, ce qui est beau avec le Lindisfarne, c'est que tout est très codé. Les alphabets, les écritures, la mise en page, c'est remarquable. Et voilà toujours cette fois-ci, le cul, etc. Alors là, je peux zoomer un petit peu, pour, je pense. Ah, celle-ci est de bonne qualité. Et le soin, alors, même les contreformes, les formes, les contreformes. Il y a une sorte d'exploration de tous les possibles. Ça aussi, c'est beau, y compris dans le jeu avec les écritures, leur mise en page, leur mise en forme, etc. Donc, on est vraiment bien au-delà d'une sorte de iconographie un petit peu vulgaire ou de propagande. On est dans une dimension vraiment spirituelle. Ce qui est assez stupéfiant aussi, c'est que c'était des livres qui étaient sans doute pas beaucoup de monde. Donc, quelque part, il s'agit... oui, mais ce n'était pas destiné, on va dire, au peuple. Hein. Donc, il s'agit là de former aussi une élite qui a une sorte de trésor, toute cette espèce de monachisme irlandais. Non seulement ils sont du côté de cette spiritualité, de l'art, de la préservation d'un patrimoine intellectuel et mystique qui est évident, dans un monde aussi où tout fout le camp, dans tous les sens. Hein, Lindisfarne, par exemple, c'est un monastère qui est au nord, je crois, de l'Écosse, et qui va être envahi et décimé par les Vikings, enfin, etc. Donc c'est quelque chose qui est... ils vivent aux confins, parfois, effectivement, des restes de l'Empire. Alors ça aussi, toujours Lindisfarne.
Après, la mise en page, elle n'a pas de cadre.
Non. Alors c'est peut-être qu'on rentre dans le corpus du texte. Parce que souvent les premières mises en page, là ce que j'ai récupéré, souvent c'est les pages un petit peu. Quand on rentre dans un texte, dans un chapitre. Je ne vous ai pas montré parfois toutes les pages où après on a des pages entières de texte pur. Hein. Souvent c'est presque comme une tête de chapitre ou de texte. On rentre dans le texte par des pages un petit peu bien particulières qui sont signifiées de manière magnifique avant de rentrer. Alors là, on voit une nominée. Alors après, j'ai du mal à lire aussi. Alors voilà. Et là, on voit aussi une page tapis.
Ah, ça fait tapis, ça.
Et là, la beauté. Et là, pleine page. Alors, comme je vous avais dit, c'était manuscrit de Lutrin. Hein. C'est pas, comme on dit, de besace ou de main. Hein, parce que vous vous souvenez, je vous ai parlé des manuscrits de Lutrin, de besace ou de main. Lutrin, c'est vraiment le manuscrit, on va dire, qui est lié à un rituel et qui n'est pas fait pour être bougé, qui est conservé précieusement. Besace, c'est quelque chose qu'on va avoir toujours dans son sac, hein, pour les herbiers, des choses comme ça. Et puis demain, c'est un psautier, une Bible qui va être plus simple, etc. Ou des histoires diverses et variées. Mais ça, à cette époque-là, il n'y a quasiment pas de manuscrit de main, puisque il n'y a pas encore de papier, les supports sont rares et chers. Donc, la plupart du temps, les manuscrits sont des choses rares, grandes. Juste une chose... voilà, Lindisfarne, c'est dans les îles Hébrides, hein, c'est ça. Alors ça, attention, c'est plus récent, hein, mais c'est le lieu du monastère de Lindisfarne. Et on voit bien que là, on est dans des secteurs avancés, à la solitude, on peut imaginer, hein, de ces... Alors ça, c'est dans les îles Hébrides, l'île Diona.
Ce qui est étrange, c'est que pour arriver à produire ce genre de travail,
oui,
il faut une dextérité qui demande un entraînement hallucinant. Oui. Donc, s'ils n'avaient pas beaucoup de matériaux, comment ils s'entraînaient?
Oui, oui, effectivement, je ne sais pas là. Parce qu'on n'a pas de brouillon. Alors, il y a aussi quelque chose.
Il n'y a pas d'erreur, on ne voit pas grattoir.
Non, mais parce que voilà, ils ont le grattoir et il y a aussi ce qu'on appelle les palimpsestes et des choses comme ça. C'est que vraisemblablement, l'intérêt du cuir, c'est que. Enfin, du marché de parchemin, c'est qu'on peut sans doute gratter. Et avant d'arriver.
Oui, c'est ça, quand même, qu'ils fassent des projets.
Ah oui. Alors, dans tous les manuscrits qu'on a, on en a parfois qui sont inachevés. On voit qu'ils commencent avec une sorte de crayon parfois. Hein, donc, et ensuite, ils vont faire les premières traces à une encre légère et puis ils avancent progressivement. Par contre, les véritables brouillons. Je ne sais pas, est-ce que c'était sur de la terre, est-ce que c'était sur des résidus, des poteries, etc. Ce qu'on appelle les ostracas, par exemple, qu'on a trouvé en Grèce ou en Égypte, où on a vu tous les brouillons qui étaient faits sur des morceaux de terre cuite, hein, qui, des détritus, des ostracas, c'est donc des bouts d'amphores ou de trucs de terre cuite ou de bois. On a trouvé des archives gauloises ou celtes de bois, hein, sur la cire, Alors, la cire, elle a été détruite souvent, ou le bois, ou les tessons, qui servaient parfois de carnet. Et donc, quand il y a des gros dépôts, notamment en Égypte, on a trouvé beaucoup d'ostraca, c'est-à-dire ces espèces de tessons bourrés d'exercices. Hein, alors, c'est très émouvant, c'est même parfois plus émouvant que des produits finaux, parce qu'on voit, comme tu dis, il y a de recherche de la perfection. Par contre, pour ces livres-là. Donc, mais vous voyez, les lieux disent bien un petit peu, on voit tout de suite un petit peu le. Et alors voilà, toujours donc les pages tapis avec des variations sublimes. Alors, juste assez pour vous montrer les difficultés de la reproduction. Ça, c'est la même œuvre que celle-ci. Ça, c'est ça, mais comme je n'ai pas vu l'original, je ne sais pas quel est le véritable tonalité. Alors, ceci dit, ce que tu dis, Martine, est aussi intéressant, c'est cette idée de transmission. Il y a forcément non seulement le langage, la religion, mais y compris l'art, c'est quelque chose aussi qui va se transmettre. Et on voit bien d'ailleurs, ça fait partie de véhiculer un style, c'est aussi quelque chose qui homogénéise, posément, fait partie de, constitue une culture, hein, par transmission, cohérence, code, langage, même rituel. Et donc, ça aussi, ça constitue quelque chose de fort. Et puis, ce qui est assez quand même assez remarquable, c'est que dans toute cette culture nordique et celtique, en fait, c'est ces manuscrits qui sont la partie la plus précieuse de toute leur pratique artistique. Les architectures, souvent, sont beaucoup plus pauvres et fragiles. Les vêtements, il n'y en a plus. Les villes, il n'y en a pas. Les sculptures, il n'y en a pas. Les peintures, les fresques, il n'y en a pas. Donc, on peut dire que l'essentiel de la pratique culturelle nordique et celtique, ce sont les manuscrits et ce sont ces pages-là. Parce que sinon, il n'y a quasiment rien d'autre. On trouve très peu de choses. On ne sait même pas. On a cru longtemps, hein, que je vous ai montré le petit oratoire de Galarus. Ah ben non, je suis bloqué, juste là. L'oratoire de Galarus, il est... Je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui sont allés en Irlande. Voilà, l'oratoire de Galarus. Bon, moi, j'y suis allé, ça fait assez longtemps. Donc, on est en Irlande, dans l'ouest, sud-ouest de l'Irlande, dans les doigts là, du Kerry, à peu près. Et on imagine... Alors, on a du mal à le dater, parce qu'ils ne savent pas très bien. Mais, et donc, pendant longtemps, on a pensé que c'était contemporain du Book of Kells. Que c'était ce type d'oratoires ou de petits logements dans lesquels pouvaient être certains moines. Donc c'est un peu compliqué de s'imaginer qu'ils font des œuvres dans un truc comme ça, mais... Comment ?
Il n'y a pas de lumière.
Voilà, alors, pas de lumière, est-ce qu'ils sortent pour travailler le jour, est-ce qu'ils rangent, on ne sait pas. C'est un peu petit, mais en tout cas, sans doute des bâtiments plus grands, toujours est-il que, visiblement, il ne reste pas. On n'a pas de traces architecturales des lieux dans lesquels ont pu être faits ces manuscrits aussi magnifiques. Donc c'est assez étonnant, cette espèce de... Au point que, oui, même certains ont dit, mais c'est pas du tout un oratoire, simplement un abri de pêcheurs, comme les billes, etc., qui étaient, ou de bergers, qui étaient en pierre, et effectivement, de manière logique. Donc, la datation même de cet oratoire, qui est présenté comme l'oratoire du monachisme irlandais, prête et à discussion. Donc, ça, c'est assez marrant de voir cette ambiguïté.
Attends, c'est au Bory.
Oui, tout à fait. C'est exactement
c'est la même. C'est la pierre sèche.
Ouais, pierre sèche, construction en pierre sèche. Qui alors là a des millénaires, parce que puisqu'on parlait de la Bretagne, à Port-Sal ou à près de Carantec, près de Morlaix, il y a les tumulus en pierre sèche de Barnonnet ou de l'île Carn qui sont aussi pareil, hein, en pierre sèche, lesquels c'est des chambres funéraires et qui ont à peu près 5000 ans. Oui, ouais, très solide et protégé. Donc construit en pierre sèche, et par contre c'est très dur à dater. C'est très dur à dater, il y a très peu de matériaux, la roche est la même, il y a très peu de restes, etc. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce qui était contemporain. Oui.
Dans le sud de la France, il y a des
bories.
Oui, c'est ça, les bories. C'est ce que disait Daniel. Ouais. Alors. Ouais. Oui, en fait, donc. Alors, dans ces moines, quand même, ils sont dans leur coin, la petite coin comme ça, mais il y a une chose qui caractérise ce qu'on appelle le monachisme irlandais et qui est historique, ce ne sont pas des légendes, c'est que certains de ces moines irlandais ont énormément voyagé. Et étaient même, en fait, loin d'être des idiots. Certains sont devenus de grands intellectuels et ont eu une influence dans toute l'Europe. Non, alors, un des plus connus, c'est Alcuin. Alcuin, alors c'est un des deux, je ne sais plus qui est, je pense que c'est Albinus ici qui est donc Alcuin. Et là, c'est Rabanus Maurus qu'on verra tout à l'heure, et qui, eux, vont arpenter de temps en temps, ils partent en mission dans toute l'Europe. Donc Saint-Martin de Tours, Charlemagne, ils vont aller même jusqu'en Asturie, c'est-à-dire que dans le nord de l'Espagne, des gens comme Alcuin est un véritable théologien-philosophe, il se trimballe sans doute pas avec son Bouffkoff-Kels, mais peut-être des notes et des choses comme ça, puis tout un savoir assez remarquable, et il va... on considère que le monachisme irlandais va réirriguer une partie de l'Europe au niveau intellectuel. Et parce que, on va dire, le corps de l'Europe centrale, les Francs, les Germains, les Gaulois, les Gaules, les Visigoths, les Lombards, les Burgondes, tout ce qu'on veut, ont été presque déchristianisés. Ce qui a surtout dominé, c'était soit les cultures des envahisseurs, entre guillemets, des élites qui envahissaient, soit c'était les cultures populaires qui s'étaient déchristianisées, qui étaient redevenues des cultures, soit qui repiochaient, c'est ce que vous avez montré, c'est compliqué, hein, dans les vieilles cultures gallo-romaines, par exemple les cultes à Isis, à Hathor, etc., qui ont pu rester pérennes, ou à Serapis, ou à qui on veut, des cultures même celtiques anciennes, par exemple Merlin l'Enchanteur, c'est pas du tout chrétien. Et un des enjeux, justement, c'est de christianiser la tradition celtique de Merlin l'Enchanteur, des Chevaliers de la Table Ronde, c'est pas du tout chrétien, et un des enjeux, c'est progressivement de re-christianiser. Donc tous les Chevaliers de la Table Ronde, progressivement, on va dire que le Graal, c'est un truc chrétien, que Merlin l'Enchanteur, finalement, il est conseiller du roi, et le roi lui-même devient chrétien, etc. Donc vous avez Arthur et compagnie, donc vous avez toute une sorte de christianisation progressive d'un tas de légendes qui sont extrêmement variées. Elles peuvent être celtes, elles peuvent être nordiques, elles peuvent être juives, elles peuvent être berbères, elles peuvent être tout ce qu'on veut. Vous avez une christianisation progressive qui se fait. Et là, vous avez encore ici Rabanmore et Alcuin. Alors, attendez, je vais zoomer. Un petit manuscrit qui est assez rigolo, parce que Rabanmore et Alcuin ici. Donc Alcuin, A-L-C-U-I-N. Qui va justement rencontrer et qui vont, et surtout toujours deux intellectuels qui vont se balader, vont aller voir les puissants du monde, soit les personnages saints, soit y compris quelqu'un comme Charlemagne, qui est justement un des enjeux très importants, puisque Charlemagne, donc, qui ensuite sera premier empereur en 800, comme tout le monde sait, et bien effectivement c'est un être puissant, il est dans la tradition des Francs, des Germains, etc. Et donc il est, ça peut être un pilier. Si il est bien christianisé. Donc, la garantie, la christianisation, la consolidation de la tradition chrétienne autour de cet empereur terrestre, etc., son éducation, c'est un enjeu essentiel. Donc, Charlemagne devient un enjeu essentiel. Vous avez cette idée aussi de transmettre les contenus. Et d'ailleurs, vous voyez les livres ici, qui sont portés de manière précieuse, c'est-à-dire que c'est vraiment là le don qui est fait du livre. Alors, ça, ce sont des manuscrits postérieurs, hein, mais qui racontent un peu les aventures intellectuel de ces moines. Ces moines irlandais aussi, puisque je parlais de l'armorique tout à l'heure avec Martine, on sait aussi, par exemple, toutes les légendes, Budoc, Malo, presque tous les noms des communes côtières du nord de la Bretagne, souvent ont des noms de moines irlandais qui seraient venus dans des vaisseaux, des bateaux de pierre, hein, notamment aussi le voyage de Saint-Colomban, etc., ou Saint-Brandan plutôt, etc., Saint-Budoc à Porthcawl, l'église Saint-Budoc, etc., dont on dit qu'il y a encore le vaisseau de pierre sur la plage, donc qui serait arrivé en vaisseau de pierre, qui serait arrivé d'Irlande, etc., venu re-christianiser toutes ces contrées qui étaient livrées un peu à l'abandon, puisque l'Empire romain n'avait plus le pouvoir, ou était un peu décomposé. C'était un peu le laisser-aller à des vieilles légendes ou à des vieux mythes populaires. Et donc, vous avez la re-christianisation progressive, mais beaucoup par ces moines d'Irlande qui, eux, vont ré-essaimer. Et je vous dis, de Charlemagne jusqu'en Asturie, donc l'Espagne du Nord. Donc, c'est quelque chose qui va être très important. D'ailleurs, Charlemagne, avec Roland de Roncevaux, va aller en Asturie. Donc, cette idée de reconquérir et re-christianiser toute l'Europe jusque dans les pointes les plus extrêmes, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Alors, d'où naît justement l'art carolingien aussi. C'est pour ça que je vous montrais les manuscrits carolingiens, Charlemagne, autour de Charlemagne, comme par exemple l'évangile de Saint-Denis. Donc Saint-Denis, ici, chez nous, dans le 9-3. Alors, dans le 9-3, vous avez des bibles qui sont magnifiques. L'évangile de Saint-Denis,
C'est quoi l'évangile de Saint-Denis ?
Eh bien, c'est la définition d'un des évangiles de Saint-Denis, qui est effectivement... Mais on voit très nettement l'influence irlandaise. C'est là où c'est intéressant, si on voit très nettement l'influence irlandaise, cette fois-ci, au cœur d'une cité gallo-romaine. C'est là où on voit qu'il y a la rencontre ici, très très claire, comme on l'a vu, et notamment les entrelacs, la mise en page, l'écriture. Donc voilà, le sacramentaire de Drogon, qui est aussi un sacramentaire, donc un texte religieux, qui lui aussi est carolingien. Et là, on voit effectivement l'écriture caroline, qui est une lisibilité prodigieuse. Caroline qui est carolingien. Mais on a encore le thème de l'entrelacs, avec des variantes. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est un principe qui se diversifie avec des rencontres d'autres cultures, comme par exemple ici.
C'est donc un V. Hein.
Là, c'est un V. Il n'y a pas de doute. Effectivement. Et alors, avec ici, sans doute, l'agneau pascal, les figures. Là, c'est un T, une croix. Alors là, vous avez alors. Ce qui, par contre, est assez marrant dans les évangéliaires carolingiens, et on verra dans d'autres, c'est la rencontre avec l'influence irlandaise qui est purement, on va dire, d'entre-là, avec de la figuration. Parce que rappelez-vous aussi, je vous ai montré quand on a vu Aix-la-Chapelle, la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, c'est en même temps, elle est influencée par l'art byzantin. Donc en fait, vous allez avoir autour de l'Empire carolingien la rencontre de la tradition irlandaise, par les textes, et la rencontre de l'architecture et de l'art byzantin, avec des figurations et des thèmes figuratifs. Et si vous voulez, progressivement, c'est la rencontre aussi entre deux cultures très différentes, la culture orientale, architecturale, monumentale, byzantine, qui va rencontrer la culture plus lettrée, autour du texte, au cours de l'entrelacs, presque abstraite. Et la rencontre des deux va progressivement aussi codifier en termes d'architecture, d'iconographie, des scènes importantes et des textes. Et ça, on le voit dans l'art carolingien, qui est justement cette rencontre. Alors là, Clémentis, mais bon, là, ça c'est un D.
Bravo, on voit que tu as bien préparé.
Oui, oui, oui. Et vous voyez que là, on commence à avoir des scènes. Des scènes très précises qui tout d'un coup commencent. Cette fois-ci, on n'est plus dans
une abstraction. Dans
là. Voilà. Et là, quelque chose de. Vous voyez là, c'est récemment la résurrection de Jésus avec les soldats endormis, les femmes qui arrivent au tombeau. Donc, on commence à repérer des scènes identifiées, une iconographie figurative qui, elle, vient beaucoup plus de l'Orient, de la tradition byzantine. Et pour dire. Sacramentaire, voilà. Alors, Echternach, tout ça, ce sont des manuscrits carolingiens. Alors, en fait, il y en a plus que des Irlandais, parce que, en plus, Charlemagne, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup d'importance à l'écriture, au texte et à la transmission. On sait très bien, on va dire, les écoles, etc. La structuration, y compris, de l'Église et de l'Empire, donc avec, on sait très bien, on apprenait ça à l'école quand on était les missi dominici, etc. Mais donc une société qui va donc se restructurer, y compris en termes temporels et religieux. Et vous allez avoir donc, et c'est d'ailleurs pourquoi ces moines irlandais, ils voient très bien que dans Charlemagne, il y a un enjeu prodigieux, parce que tout d'un coup, c'est la possibilité de structurer, de diffuser et de pérenniser toute leur... La tradition qui était bien fragile, leurs petits coins et leurs petits monastères nordiques au milieu des brumes et des tempêtes, alors que là on est dans quelque chose de solide et qui va pouvoir reconstruire. Et c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs aussi, on verra en Asturie et dans le nord de l'Espagne. Alors là on retrouve l'aigle de Saint-Jean, le taureau de Saint-Luc, le lion de Saint-Marc. Et alors ce qui est drôle, ça, vous avez vu, c'est donc évangéliaire d'Echternach. Et là, on voit bien très clairement l'influence directement du manuscrit de Lindisfarne et de Book of Kells sur les manuscrits carolingiens. Donc, l'Europe et les frontières sont déjà bien constituées et il n'y a pas besoin de contrôle. Ça circule beaucoup, vous avez même des langues, etc. Vous avez des échanges du nord au sud. Et tout ça à Dodane, de bateau et à pied. Et on passe de l'Irlande jusqu'à Aix-la-Chapelle, puis on va descendre dans le sud. Voilà, vous avez donc quelque chose aussi qui... Ils prennent le temps, mais ça... Non, ça s'homogénise très clairement. Et regardez, c'est toujours l'évangile d'Echternach, donc on voit très clairement là l'influence, un modèle qui est accepté et qui devient même une sorte de norme dans ces manuscrits du 8e et 9e siècle. Et là encore, hein, l'évangéliaire d'Echternach, vous avez Saint Jean. Alors Saint Jean comme évangéliste, hein, évidemment. Et encore une plage tapis. Alors ça, c'est l'évangile de Saint-Riquier. Là encore, Saint-Riquier, c'est donc une abbaye du nord de la France. Et là, il est présenté en pleine page. On a un peu une idée de ce que présentait comme objet absolument incroyable et merveilleux un livre de cette... Alors par contre... Je ne sais pas pourquoi les pages sont ocre et rouge comme ça, c'est beau, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et là, alors, ça je viens d'y parler. Évidemment, ce n'est pas étonnant que les évangélistes soient mis en avant aussi par rapport au texte, parce qu'eux-mêmes sont des propagateurs par le texte et par l'écrit. Puisqu'ils ont écrit, vous écrivez des livres sous lesquels on parle de gens qui eux-mêmes ont écrit, donc ça valide encore plus le manuscrit que vous faites, puisque l'importance accordée à l'écrit et au texte et à l'objet livre est effectivement là triplement, d'une part parce qu'il est précieux, parce qu'il est enluminé, parce qu'il est beau, parce qu'il est rare, mais aussi parce qu'en fait il reprend la tradition des évangélistes qui sont les quatre piliers du christianisme, etc. Et donc alors les évangiles vont être effectivement un véhicule très intéressant. Et on verra que Saint Jean, particulièrement, notamment en Asturie, pour des raisons, on va dire, de géopolitique. Alors, ça, c'est donc l'influence carolingienne. Alors, d'autres choses qui sont intéressantes, puisqu'on a vu Rabban de Mort tout à l'heure...
Excusez-moi, il y a un rapport avec Saint-Jacques.
Oui, puisque c'est son frère. Et que, justement, juste pour aller plus vite, mais Saint-Jacques de Compostelle, donc, dans le nord de l'Asturie, est justifié en Asturie, parce que c'est le frère de... Et, en plus, il est Matamoros, donc il va combattre Santiago Matamoros, qui va combattre les Maures, c'est-à-dire les musulmans qui arrivent en Espagne.
Matamoros, c'est mis à mort du mort.
Oui, c'est ça. Matamoro. Et donc, Saint-Jacques, et juste un truc, c'est parce que je répète pas, si, normalement, on va aborder les apocalypses, justement, asturiennes la prochaine fois. Et effectivement, Santiago Matamoros va arriver au moment où, en Espagne du Nord, eh bien, il y a une influence musulmane qui se constitue de manière très importante. Et Saint-Jacques apparaît aussi comme un chevalier d'Apocalypse sur un cheval blanc. Et donc, en étant frère de Saint-Jean, ça va être un argument géopolitique aussi et historique très important pour constituer et reconstituer tout l'Empire des Asturies. Enfin, on verra ça la prochaine fois. Mais effectivement, il y a la consolidation progressive et les manuscrits ont une importance fondamentale. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ce personnage, je vous ai montré son nom un peu bizarre. Mais c'est Rabban de Mort, Rabbanus Maurus, que l'on voit, je vais vous remontrer ici, c'est le petit tendu ici, ça c'est Alcuin, ça c'est Rabban de Mort, alors on y écrit Rabban de Mort, R-A-B-A-N, Mort, M-A-U-R, alors est-ce qu'il était mort d'origine peut-être? Je ne sais pas, Saint-Augustin était bien d'Afrique du Nord, il y a beaucoup de penseurs chrétiens qui étaient d'Afrique du Nord aussi, qui étaient toute une zone christianisée, évidemment une des premières espace chrétien d'ailleurs, les Coptes on verra, etc. Donc, par contre, Rabban de Mort, je ne sais pas très bien quelle est son origine, mais c'est un intellectuel mystique et aussi un artiste. Un artiste, c'est l'ancêtre de comment il s'appelle, Maître Capello. On a tous connu les mots croisés, les mots et les lettres. C'est l'ancêtre des mots fléchés, des mots croisés et de cela, c'est lui qui a fait une sorte de texte sacré mystique qui s'appelle In Honorum Sancta Crucis, en hommage, en honneur de la Sainte Croix, qui est devenu un genre à part, mais je crois que j'en ai déjà parlé, qui s'appelle. Alors, je vous le présente ici.
Oui, il faut rayer les mots et à la fin.
Voilà, selon comment vous encadrez certaines lettres, vous allez voir des textes, et il va faire 24 variation possible d'un même carré sur lequel vous avez des lettres, et selon les chemins que l'on peut faire dans ces lettres, on va avoir des mots, des prières et des phrases sacrées. C'est-à-dire que vous avez des textes cachés dans un texte, apparemment, dans une sorte de...
Pour s'occuper pendant les vacances.
Voilà, pour s'occuper pendant les vacances. Et c'est devenu...
Ça fait penser à l'éternité. Il le sort à ta prière.
Voilà, et à chaque fois, c'est sur le principe de la croix. Et c'est toutes les variations possibles autour de cette croix merveilleuse. Et vous avez quand même cette idée de l'infini dans le fini. C'est pas de l'entrelacs, mais quelque part, c'est une manière d'entremêler les lettres, tout à coup constituer des phrases et des textes sacrés. Il y avait tout à coup une beauté, et là on voit l'importance donnée à l'écriture. Alors ça, c'est totalement codifié, ça va être reproduit pendant plusieurs siècles, on appelle ça même un rabbin de mort. Si vous mettez un rabbin de mort, ben vous avez ces 24 pages. C'est un manuscrit dans lequel vous avez ces 24 pages qui sont, alors 24, évidemment, 2 fois 12, 6 fois 4, 24, vous avez toutes les numérisations. Et ce qui est assez typique dans rabbin de mort, c'est, et là je vous présente plusieurs rabbins de mort, c'est pas toujours les mêmes, son objectif, c'est d'arriver quand même à ça.
Dire à la fin, tu obtiens.
C'est d'avoir Louis le Pieux, c'est-à-dire le soldat de Dieu, le chevalier, celui qui va pouvoir quand même être au service, à la fois la croix et à la fois l'arme. C'est-à-dire que Alors évidemment, ensuite, ça va être réutilisé pour les croisades, pour ce genre de choses, mais Charlemagne, c'est un peu aussi une sorte d'expression du prince au service de la religion, et en même temps la religion qui guide le prince, et on verra que justement dans les Asturies, ça va être aussi ça l'enjeu, c'est de christianiser le roi et la reine d'Asturie, pour en faire des rois et des reines chrétiens. Pour d'un coup, faire des sortes de théocraties avec un bras armé. Et on voit bien que c'est la rencontre aussi, ben, on avait déjà cette espèce d'enjeu avec Galla Placidia, puis tous les empereurs et les impératrices byzantins. Hein, et donc, vous voyez que cette espèce de... Et tout ça, est en train de converger vers le 8e et 9e siècle. Au 8e, 9e siècle, tout ça s'établit à peu près clairement. À la même époque où, justement, l'islam s'établit notamment en Europe aux frontières de Byzance, hein, et puis en Espagne et dans l'Afrique du Nord. Donc vous allez avoir effectivement la constitution, cette fois-ci, de territoires géopolitiques et religieux qui se définissent de plus en plus. Qui se définissent de plus en plus avec effectivement des codes et des règles qui sont très bons. Alors, et de l'art. Et ça, c'est donc un rabbin de mort. Tel qu'on le dit, alors voilà une autre version plus récente, celle-ci est du 11e siècle, mais comme vous avez établi ici un code, et ben ça se répète. Mais on voit bien en les copiant que, on imagine très bien, un moine y va dans un monastère, il copie tout, il refait bien chez lui, ou il copie sur place, il l'emmène, etc. La transmission de monastère en monastère, et ça c'est très clair. Et, et même des rabbins de mort, je crois qu'il y en a jusqu'à.
Est-ce
qu'il
n'y a pas des gens qui ont essayé de. D'y mettre des algorithmes dedans.
Ah, ça, justement, je ne sais pas. Ça. Alors, ça serait des scientifiques pourraient. Ouais. Surtout comment est-ce qu'on pourrait faire tourner ces lettres ou ces pages. Comment. Alors, vous avez ce côté, visiblement, l'infini dans l'infini, hein, ça c'est très clair. L'infini dans le fini, ça c'est aussi très clair. Et évidemment, vous avez. Jésus se trouve là-dedans. Alors, si on zoome. Vous avez effectivement Vergum, Virtus, mais Splendum de leur mort. Emmanuel, pas celui d'hier, ni celui de voilà.
C'était
peut-être. Alors après, je pense que ce qui est en noir, c'est ce qui fait du sens, je ne sais pas. Mais ici, on voit Domini, etc. Mais alors, se repérer là-dedans, c'est un travail de fou. Comment est-ce que Rabban a réussi à constituer des phrases et des textes sacrés, combinés avec des figures ou des schémas? Ça, effectivement, alors il joue sur la couleur, hein, jaune, rouge, noir, etc. Alors,
là on a le code.
Je sais pas. Comment?
Cette image, là, ça fait penser à un canevas.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais loin de l'entrelacs. Parce que là, il s'agit de tisser les lettres entre elles, de les relier entre elles, dans cette espèce de chaos, trouver de l'ordre ou du merveilleux, du sens. Et ça, cette idée de l'ordre et du désordre, du chaos et du cosmos, hein, il y a le chaos puis on va vers l'ordre, le cosmos, une espèce de cosmogonie, d'un ordre qui se fait au milieu du désordre. En plus, pour une période extrêmement désordonnée, comme la chute de l'Empire romain, puis cette espèce de chaos, retisser des liens, relier leur religion, vous savez, relier, retisser, reconstruire quelque chose. De toutes les manières, c'est un enjeu, évidemment, ça fait beaucoup de sens. Cette idée que dans ces lieux de bazar, on réussit quand même à constituer. Et c'est un truc tout bête, hein, mais les routes aussi. Hein. Les routes et les liens et les schémas de lieu en lieu. Et d'ailleurs, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, vous en avez déjà parlé l'année dernière, c'est aussi un des premiers tissages du territoire aussi. Parce que, tout à coup, tout va être relié, alors, soit vers Rome, soit vers Saint-Jacques, soit vers Aix. Mais cette idée aussi de reconquérir l'espace terrestre, c'est aussi un enjeu. Donc, Rabanus Maurus, et je termine presque là-dessus avec une tradition aussi qui est intéressante, puisqu'on a parlé de l'entrelac, j'ai parlé de toutes ces choses-là, le principe du labyrinthe. Le labyrinthe, qui lui aussi est très ancien, puisque finalement c'est cette idée de l'infini dans le fini, se perdre en suivant un chemin, et ou alors réussir à arriver jusqu'au bout. Alors, les premiers labyrinthes ne sont pas chrétiens du tout, on verra même certains plus anciens. Celui-ci, c'est le labyrinthe de Thésée et du Minotaure, et donc la tradition gréco-romaine, évidemment, et crétoise. C'est une mosaïque. Par contre, hélas, je ne sais même plus où elle est. La mosaïque de Thésée, qui est absolument magnifique. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on trouve l'idée du tapis, on trouve l'idée de l'entrelac, on trouve l'idée des réseaux, des rinceaux, etc. Donc, en fait, même en Irlande, et dans l'Empire gréco-romain, enfin, dans la tradition gréco-romaine, on se retrouve aussi avec, comme s'il y avait des constantes dans l'humanité, des modèles qu'on retrouve un peu partout. Et finalement, ça aussi, c'est assez émouvant de voir cette espèce de constance de forme. Hein. Alors voilà la mosaïque de Thésée, hein, qui est très grande, très, très très belle, et ça fait le lien avec ce que je vous faisais l'autre fois sur les mosaïques. Donc voilà, alors, les labyrinthes comme celui-ci, donc toujours le labyrinthe de Thésée du Minotaure, et par contre, je ne sais plus où il est. Et puis, vous avez les labyrinthes dans les églises, parce que les labyrinthes dans les églises, et on voit même... Et ça nous ramène à Ravenne, puisque on a été allé à Ravenne autrefois. Et voilà, Saint-Vital de Ravenne, en fait, ben, il y a un labyrinthe dans un triangle, alors comme un œil dans un triangle, on pourrait le dire, qui est dans le cœur. Et évidemment, ça veut dire qu'à Ravenne, effectivement, au 5e, 6e siècle, cette idée du labyrinthe comme une métaphore aussi religieuse de la recherche, de la quête, de l'initiation, du chemin vers, etc., difficile. Hein, on croit que c'est facile, mais pour y aller vraiment... C'est difficile, donc l'idée de la quête, hein, et d'un monde fini et fermé comme le cercle, mais à l'intérieur duquel vous avez une infinité de difficultés, de chemins possibles, c'est quelque chose qui est très clair. Donc on le retrouve à Ravenne, donc il est encore là, ça c'est une photo du labyrinthe de Ravenne, c'est toujours Ravenne. Alors la petite Saint-Jacques, on va retrouver ensuite. Et là voilà, toujours Ravenne. Donc avec l'idée aussi, alors, métaphorique des impasses, des chemins, des retours en arrière, bon, ça c'est aussi toute une philosophie du labyrinthe qui est très claire, et du
très
chemin.
Élégant.
Et alors c'est évidemment c'est très beau, on trouve. Il est très pur, hein, parce que vous avez cercle, triangle, toc, toc, le cercle dans le triangle. Et en plus vous avez quand même la croix dans le cercle, vous avez vu, vous avez les deux axes. Alors les deux axes, dans la tradition romaine, vous avez le cardum et le decumanum, c'est constitué déjà toutes les rues, toutes les villes, donc... Cette idée de cadre, de croix, d'orientation, de points cardinaux, se repérer dans le chaos, c'est ça aussi. Hein. Vous avez toute une symbolique très rapide, très efficace. Ça, c'est labyrinthe d'Amiens. Labyrinthe d'Amiens, alors évidemment, souvent, vous avez des tapis, vous avez des chaises, on ne voit pas, vu de haut, qui est absolument magnifique. Alors ça, c'est plus tard, hein. Mais je vous montre en plus la validité magnifique de ces motifs. Donc c'est quelque chose qui va rester en fait longtemps, cette idée de l'entrelac, du nœud, hein, comme par exemple à Amiens, zut, comme par exemple ici, celui-ci je crois que c'est à Chartres, c'est celui de Chartres, qui est encore différent. Alors ce qui est beau aussi, c'est que finalement dans le labyrinthe, vous avez plusieurs versions possibles du labyrinthe, hein. Ça aussi c'est magnifique. Alors évidemment ces photos-là, ça c'est Saint-Quentin, dans la gothique. Ça, c'est à Bayeux, mais c'est une reconstitution du labyrinthe de Bayeux. Celui-ci est à Amiens, donc vous voyez, quasiment toutes les églises, les grandes cathédrales gothiques ont repris sans doute quelque chose qui était aussi beaucoup plus ancien, puisqu'on le trouve déjà dans Saint-Vital, qui est donc du 6e siècle, dans le 5e, 6e siècle, on va le retrouver jusque dans la gothique. Donc c'est la constitution, comme je vous disais, de codes et de règles assez claires. Celui-ci, c'est à Mirepoix, donc dans l'Ariège, hein, dans une église aussi donc, qui est assez proche. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans énormément d'endroits. Et celui-ci à Dampierre, le labyrinthe de Salomon, je ne sais plus d'où il vient, c'est encore un labyrinthe chrétien. Celui-ci, cathédrale de Lucca, en Italie, pré-romane. Celui-ci, c'est à Pavie. Et Ça, c'est à Poitiers. Alors, celui-ci est quasiment dressé à main levée. Et vous allez voir, cette fois-ci, je vais retourner dans le temps. Ça, c'est un labyrinthe de Knossos en Crète. Et ça, c'est encore plus vieux, c'est Valkamonica. Donc, c'est le labyrinthe bon, mésolithique. Et Clincourt se dit finalement, ce motif du labyrinthe et de l'entrelac, c'est quelque chose qui est presque dans la tête, dans l'esprit humain, puisqu'on a l'impression qu'on ne s'en dégage jamais. Est-ce que d'ailleurs, c'est un truc tout bête, mais ça évoque peut-être aussi notre propre cerveau. Hein. Et vous avez même ici des labyrinthes de l'âge du bronze qui ont été retrouvés. Alors, je ne sais plus comment ils sont tracés sur des pierres, hein, dans des géoglyphes. Donc, géoglyphes, mésolithiques, âge du bronze, etc. On trouve y compris donc, dans l'archéologie la plus ancienne.
C'est que des labyrinthes, ce n'est pas des formes en spirale aussi.
Ah ben non, parce que la spirale, elle a un sens unique. Et donc la spirale, elle peut avoir une métaphore comme ça, d'élévation, de recul, de retour en arrière, etc. Mais le labyrinthe, c'est justement les méandres internes, et c'est...
On
n'en
sort pas.
Et en même temps, on est assez content de pouvoir trouver les chemins, et même densifier, c'est toujours cette histoire que je reviens à cette idée, densifier une surface petite. Cette idée, justement, d'amplifier, de densifier quelque chose de pauvre, on l'a dans les entrelacs, on l'a dans les miniatures, on l'a dans la page, et en fait, c'est aussi une sorte de comme si c'était une sorte de tension artistique qui est de donner de la richesse, alors pas forcément par l'or, pas forcément par les matériaux, mais y compris par la complexité, parce qu'on voit, ça, c'est juste de la valeur ajoutée, il n'y a rien de précieux.
Oui, en mathématiques, si vous permettez,
oui.
En mathématiques, il y a une courbe qu'on appelle courbe de Peano,
oui.
Et qui effectivement dans un carré, des choses comme ça, elle devient infinie.
Ah, c'est beau ça.
Oui, comme ça.
Ah ben voilà.
Et c'est une courbe qui va, c'est des traits, mais qui va remplir le carré à l'infini.
Ah d'accord.
Qui va le remplir complètement quand on le pousse. Mais au départ, c'était des courbes.
Ah, c'est genre
que
des courbes.
Ça existe,
ce principe. Eh
ben, la courbe de Peano.
On arrive très proche de ça, c'est les croix de Lalibela, en Éthiopie, qui sont presque un peu... On est dans...
C'est même après la courbe.
Avec aussi peut-être les fractales, peut-être que je me trompe, oui, mais cette idée de démultiplication à l'infini d'une même forme qui peut d'un coup conquérir. Alors, les croix de Lalibela, c'est en Éthiopie, justement, on revient dans les premiers chrétiens, la tradition copte éthiopienne, etc. Où, là, ce sont les croix qui elles-mêmes sont des objets finis, mais en même temps dans lesquels on va essayer de circuler au, de la manière la plus intense tout en les remplissant. C'est exactement ce que vous dites. C'est beau. Et ce qui est beau, c'est qu'on va retrouver pareil, le même entrelac. Donc, vous voyez que derrière les manuscrits de Book of Kells, on a aussi un regard et une grille de lecture d'autres cultures. Et pile, j'ai fini là-dessus. C'est... Donc, la semaine prochaine, on... c'est la semaine prochaine
Non, c'est le 15 maintenant.
Ah, le 15
oui.
Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais oui, d'ailleurs. Et puis il y a les élections. Etc. Et. Ah, oui, c'est le 15. Et donc, on sera en Asturie et on va reprendre exactement. Voilà, Saint-Jacques, etc. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Les trucs nordiques, vikings et celtiques, qui eux sont restés, alors là, les bijoux, etc. C'était juste trois images.
Je poserai là une question sur les vikings dans 15 jours. Quand est-ce qu'ils sont devenus chrétiens ?
Eh bien, justement, c'est ça qui est drôle. C'est comme souvent, en allant essayer de conquérir, ils ont été séduits voilà, aussi par ceux... Séduits par ceux qu'ils étaient en train de... Et les Normands sont devenus effectivement des parmi les plus belles abbayes, c'est les Normands en Normandie, et même en Écosse, etc. Donc vous avez interaction encore. Hein,
C'est comme les Mongols en Islam, ils sont
tout à fait
massacrer des gens, puis après ils ont trouvé que c'était bien
de. Oui, de prendre. C'est sur la victoire des vaincus, quelque part, c'est rassurant. C'est-à-dire que ce qu'on perd nous, quelque part.